Écoutez le froissement des feuilles au sol qui craquent sous la pression des pas, les oiseaux qui chantent, sifflent, gazouillent, un bruit un peu plus loin d'un animal invisible, le vent dans le feuillage qui bruisse, gémit ou frémit, approchez, écoutez. Une balade dans la forêt à l'écoute de la nature, que peuvent donc nous raconter les arbres? Si j'en crois Laurent Azuelos, des arbres, histoire, évidemment. Botaniste, conteur et musicien, Laurent Azuelos est aujourd'hui notre invité pour un livre d'histoire naturelle et poétique. Bonjour.
Bonjour.
Donc les arbres parlent, selon vous?
Les arbres nous parlent. Ils ont des choses à nous dire. Les anciens ont beaucoup appris auprès des arbres et nous avons des choses à apprendre par rapport à cela.
Mais qui parle en disant cela? C'est le scientifique ou c'est le rêveur?
Eh bien, ce sont les deux, parce que le scientifique a été rêveur à la base. Au tout début, eh bien, ma révélation pour la nature, pour les arbres, je l'ai eue à l'âge de 7 ans. Quand pour la première fois, je me suis adossé contre un arbre et que j'ai senti justement le froissement du feuillage, que j'ai senti l'odeur des jacinthes et du muguet, que j'ai aperçu mes premiers chevreuils, que j'ai senti la terre trembler sous mes pas et aperçu au loin une horde de sangliers traversés à travers les ronciers. Eh bien là, oui, je me suis dit, c'est ici que je veux apprendre.
Mais vous vous souvenez précisément de ce moment-là, de cette rencontre. Dans le livre, vous dites que c'est une rencontre avec un arbre.
Oui, c'est une rencontre forte avec un arbre, avec un chêne de la forêt de Notre-Dame, qui est dans la ville de Sucy-en-Brie. Et c'est là que mes parents ont déménagé, après avoir vécu dans une ville de béton. Et ça m'a marqué de découvrir la forêt ainsi, d'être immergé. Et j'ai lancé mon cœur loin devant et je me suis dit plus tard, eh bien je grandirai auprès des arbres et j'apprendrai à les comprendre et à les apprendre.
Et grandissant, vous avez donc décidé d'être chercheur et d'être botaniste, puisque dans la vie civile, si j'ose dire, vous travaillez au Muséum d'Histoire Naturelle. Je crois, si je lis votre CV, que vous faites des inventaires floristiques. Je ne savais même pas que l'adjectif existait.
Mmh. Alors, je suis botaniste au Conservatoire botanique national du bassin parisien. C'est un service du Muséum national d'histoire naturelle. Au sein de ce service, on est missionné pour faire des inventaires de plantes sauvages, donc des inventaires floristiques. On est aussi missionné pour faire des cartographies de milieux naturels. Moi, en tant que botaniste, je fais du coup des inventaires floristiques et des cartographies de milieux naturels. Pourquoi ? Pour connaître. Parce que pour préserver, il faut connaître. Le fait de faire tous ces inventaires, ça nous permet de faire des cartes, notamment des cartes d'alerte, qui permettent d'alerter les collectivités sur les espèces et les espaces menacés qui vivent sur leur territoire. Ce sont donc en fait des outils d'aide à la décision pour aménager le territoire que nous apportons aux élus et aux collectivités pour aujourd'hui aménager en conscience. Et c'est un trésor, c'est un cadeau que nous n'avions pas avant. Et aujourd'hui, eh bien, avec toutes ces connaissances, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on aménage en conscience de la biodiversité que nous avons. Et nous savons que nous ne pouvons pas envisager l'avenir sans tenir compte de la biodiversité et de tous ses effets positifs qu'elle a pour notre environnement.
Et vous connaissez donc, Laurent Azuelos, tous les noms des plantes, des plus communes aux plus extraordinaires et aux plus rares?
Alors, tout du moins, sur la région Île-de-France, qui est mon territoire d'études, oui. Les noms scientifiques, qui sont les noms latins, qui est donc la langue reconnue par les scientifiques pour parler sur les plantes, sur les arbres, les plantes sauvages.
Et ça vous fait rêver aussi, le nom des plantes?
Oui, le nom des plantes, ça raconte déjà une histoire.
Vous êtes donc un enfant du bitume, devenu un adulte des sous-bois. Et dans ce livre « Arbres histoire », vous nous racontez en fait 15 années de balade. Avec les deux casquettes, celle du scientifique et celle du rêveur.
J'ai vraiment eu à cœur de développer une démarche pluridisciplinaire pour sensibiliser notamment les jeunes à la nature. J'ai remarqué qu'avoir une approche uniquement naturaliste ou scientifique ne suffisait pas pour marquer les esprits. C'est pour ça que mêler art et science, c'est devenu pour moi une évidence. Et ma particularité, et ce que j'aime faire lors des balades botaniques contées que je propose, c'est de mêler à la fois les contes, mais aussi les histoires locales, l'étymologie, la toponymie, la poésie, la musique, les devinettes, les chansons. Pour moi, c'est important de mêler tout ça pour créer plein d'univers différents, plein d'approches différentes.
Arbre histoire, 17 histoires d'arbres donc à lire et à écouter. Nous en écouterons ensemble quelques extraits. Mais il y a aussi dans cette émission L'oiseau noir avec un premier album de ce musicien au nom étrange.
On s'est rien promis, mais je pensais vraiment que l'on serait inséparables.
On dit que la terre est ronde, que l'amour a ses raisons. Dans mon cœur, c'est l'hécatombe, t'es la plus belle de mes chansons. Ils m'ont dit que l'univers est vaste, que de t'attendre être néfaste. Dans mon cœur, c'est le bordel, t'es la plus belle de mes promesses. Ils m'ont dit tourner la page, que j'ai la tête dans les nuages. Rejoins-moi, je te prête mes ailes, t'es la plus belle de mes princesses.
Inséparable, extrait de l'album Crépuscule, signé L'oiseau noir. Oiseau qui peut se poser sur les branches d'un cerisier, d'un chêne ou d'un charme. Autant d'arbres que Laurent Azuelos fait parler dans son livre Arbre Histoire. Et ce sont, Laurent Azuelos, les arbres d'une forêt très précise que vous avez choisie pour ce livre.
La genèse du projet s'est passée au parc départemental du Saussay, qui est localisé à Villepinte, Aulnay-sous-Bois.
Donc le nord de la région parisienne.
Voilà, en Seine-Saint-Denis. Et donc, ce sont les responsables du parc qui m'ont appelé il y a de cela 8 ans maintenant pour animer une balade botanique autour des arbres. Cette balade botanique, elle a plu, elle a marqué les esprits, elle a créer de l'attachement au territoire avec les jeunes qui ont participé. Et cet attachement au territoire et aux arbres ont fait que les arbres sont devenus familiers pour ces jeunes et pour les adultes qui ont entendu les histoires. Et cette familiarité a donné envie aux jeunes et aux adultes d'aller à la rencontre de ces arbres, de revenir sur les pas de la balade pour revoir, retoucher, ressentir les mémoires chaudes qu'on avait pu partager lors de la balade botanique comptée.
Mais alors, ces balades botaniques se passent comment ? Vous installez devant ou sous un arbre et vous racontez ?
Alors oui, ça peut être sous un arbre, ça peut être devant un paysage, ça peut être à côté d'une pierre. En tout cas, l'idée de la balade botanique comptée, c'est effectivement en amont. Moi, je fais toujours du repérage. Et j'essaie de repérer les points de curiosité dans lesquels je peux créer de l'attention, de la curiosité justement, de l'écoute avec des approches différentes. Et je me mets, sous un arbre et je raconte, par exemple, sous un tilleul, pourquoi le tilleul a des feuilles en forme de cœur. Et avec, je vais utiliser une histoire issue des Métamorphoses d'Ovide, qui raconte l'histoire de deux amants qui se sont promis de s'aimer pour le meilleur et pour le rire, et que même la mort ne les sépare.
En tout cas, ce sont chaque fois des arbres européens, en tout cas de ce parc départemental. Il n'y a pas de manguier ou de baobab, et pourtant vous reprenez un peu le principe de l'arbre à palabre.
Oui, parce que l'arbre est universel. L'arbre a parlé aux Celtes. C'est très peu connu, mais les Celtes ont fait le calendrier des arbres, le calendrier de l'année, basé sur les arbres, où chaque quinzaine de jours correspond à un arbre. En observant au cours de l'année les arbres, les Celtes ont créé ce calendrier des arbres. Ils ont raconté des histoires sur ces arbres.
Et votre balade commence, non pas par un chêne, on y viendra plus tard, mais avec l'érable.
Aux premières gelées, l'érable confie au vent les ailes innombrables de ses enfants. Regardez-les passer, ce sont les fruits de l'amour. Ça tourne et ça se marre, ce sont les samars. Elles tournoient dans l'air comme des hélices d'hélicoptère. Père et mère érables rougissent. De leurs mains feuilles aux larges doigts pointus, ils saluent leurs enfants.
Volez, volez, osez rêver. Volez, osez vous planter.
Mais en voyant certains hésiter, tourner en l'air de ci, de là, ne sachant où aller sur terre, ils leur crient.
Osez-vous planter, c'est la seule façon de pousser.
Le vent dans les érables est la voix de Laurent Azuelos et on l'entend, c'est vraiment une rêverie. D'où vous vient cette histoire par exemple? Parce qu'il n'y a pas de dimension scientifique du tout dans cette histoire, dans ce récit, sauf peut-être le mot samar.
C'était ma volonté justement de transmettre cette notion de fruits ailés, de fruits portés par des ailes, les fameuses samars qui tournoient dans l'air comme des hélices d'hélicoptères. J'avais envie de transmettre cette notion botanique. Donc l'érable a des samars, mais les fruits de l'orme ont des samars, le frêne a des samars. J'avais envie comme ça de transmettre une notion de botanique à travers cette poésie-là. Et pour la petite anecdote, donc, je me suis réveillé un matin en me disant j'ai envie de parler de l'érable et de ces samars qui tournoient dans l'air comme des hélices d'hélicoptères. Et j'ai écrit d'une traite cette poésie. Et elle parle quand même de père et mère érables qui voient leurs enfants s'envoler de leurs propres ailes. Et le pur hasard a fait que quelques années plus tard, ma fille, Léa, elle est née sous le signe de l'érable.
Et donc, selon le calendrier celte ?
Selon le calendrier celtique. Donc c'est un joli hasard et je voulais faire un clin d'œil aussi à la musicienne que l'on entend dans l'extrait, Aurélie Sureau, une chanteuse et percussionniste très douée qui m'accompagne tout au long des 17 enregistrements.
Et qui a le nom d'un arbre, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Il y a une très belle histoire aussi, c'est celle du bouleau. J'aimerais que vous me la racontiez, parce que le nom même de bouleau a un sens.
Oui, bouleau viendrait du sanskrit burga qui signifie écorce sur laquelle on écrit. C'est une découverte que j'ai faite lorsque justement j'étais en train de compulser mes livres sur les arbres. J'ai découvert que le bouleau avait cette propriété d'être imputrescible et d'avoir servi de support d'écriture pour de nombreuses civilisations. Et les Russes ont découvert lors de leurs recherches archéologiques des centaines d'écrits qui datait du Moyen-Âge, et tous ces écrits étaient sur écorce de bouleau. C'était gravé au stylet sur la face inférieure de l'écorce. Et donc, pour les historiens, c'est des pépites pour comprendre l'organisation sociale de l'époque. Ils ont trouvé des lettres d'amour, des cours qu'ils faisaient aux enfants, et puis les contes, etc. Et donc, voilà, j'ai eu envie de transmettre ce savoir, cette petite perle autour du boulot.
Donc, vous travaillez avec des notions d'histoire. Enfin, vous allez chercher l'histoire des arbres. Vous allez chercher aussi les croyances que la culture populaire donne comme pouvoir aux arbres. Donc, vous êtes un peu ethnologue, par exemple. Le noisetier a des pouvoirs très particuliers, selon vous. Parce qu'il faut avoir une branche de noisetier pour découvrir des trésors. C'est vrai, ça, Laurence Wellos ?
Alors, ce n'est pas selon moi, c'est selon les anciens et tous les gens que je rencontre lors de mes balades comptées. Eh bien, c'est épatant le nombre de gens qui ont testé et qui m'ont dit, moi, j'ai essayé avec la baguette de sourcier et ça marche.
Noisetier, exclusivement.
La baguette de noisetier. Alors, par contre, ça a été démystifié très récemment. Parce que certains m'ont dit qu'avec des cintres eh bien, tordus, ça marche aussi.
Donc, comme mais quoi... des cintres en bois, pas des cintres en fer.
Ah non, ce sont des cintres en fer.
Ah.
Mais comme quoi, en fait, ce n'est pas forcément l'outil qui donne le pouvoir, c'est l'être qui est derrière et la disponibilité à sentir qui permet d'avoir les facultés de trouver les rivières souterraines et même de l'or.
Mais l'histoire est moins belle quand même quand il y a un cintre à la place d'une baguette de noisetier quand même. Et alors du coup, vous allez rincer mon enthousiasme si je vous parle du tilleul et de cette histoire magnifique que vous racontez à propos du tilleul, mais là qui est purement inventée puisque c'est les métamorphoses d'Ovide. Vous racontez une histoire de vieux amoureux qui font le pari d'être unis jusque dans la mort et qui vont se transformer ensemble en un tilleul. Mm-hmm. Ça, c'est une invention stricte, pure de votre part.
Alors, ce motif provient des métamorphoses d'Ovide. Ensuite, moi, j'ai réécrit cette histoire à ma façon, avec un magicien voyageur qui rencontre ce vieux couple amoureux, qui leur offre l'hospitalité, qui offre l'hospitalité à ce magicien voyageur et qui, en contrepartie, les transformera en un tilleul et exaucera leur vœu d'être unis pour l'éternité. Et comme ça, chaque printemps, leur amour va fleurir de mille étoiles odorantes comme les mille fleurs d'un tilleul.
Il y a plein d'histoires comme ça de transformation, de sortilèges et de métamorphoses dans les légendes. Mm-hmm. Mais vous en reprenez quelques-unes donc, pour ce livre Arbre Histoire, Laurent Azouéos. Il y a notamment l'histoire du hêtre, qui est aussi une histoire d'amour ou des amoureux inséparables, comme la fleur et sa tige vont devoir se séparer puis se retrouver. Donc des légendes antiques ou celtiques, vous mettez aussi en scène Merlin, l'enchanteur, et là, on en vient au roi de la forêt, le chêne.
Merlin, d'une main levée, fait silence. D'un pas en avant, il s'adresse au roi. Bonjour à toi, roi de la forêt à la crinière verte, couronné de soleil, habillé d'étoiles et de dentelles.
Oh, oh, oh. Chêne des routes de poussière, oh, 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 l'arbre légendaire, oh, 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 chêne des routes de poussière, oh, 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 l'arbre légendaire.
Je chante le roi de la forêt, sa maison qui sent bon le bois, la mousse, la fougère, l'élixir d'oxygène. Je me repose sous ses bras ouverts enlaçant l'espace et je salue, caché au cœur de sa voix lactée, Taranis le tonnant, maître du vent, de la pluie et de l'orage.
On dit que Merlin commandait aux éléments de la nature. Laurent Azouéos, est-ce que vous en avez la preuve?
Je la cherche, mais... En tout cas, je me suis inspiré d'écrits pour pouvoir écrire ce texte autour de Merlin qui pose la question au chêne. Qu'est-ce qu'il sera et qu'est-ce qu'il ne sera pas? Car si je me suis permis d'écrire ça au nom de Merlin, c'est que j'ai vu que le chêne était comme un oracle auquel on pouvait poser les questions et que les Celtes interprétaient les réponses en fonction du bruissement des feuillages du chêne ou de la branche qui tombait à terre.
Alors, on parle de ce livre « Arbre Histoire », Laurent Azuelos, mais en fait, il y a deux projets en un. Parce qu'il y a le livre, et il faut dire peut-être deux mots sur l'iconographie, sur l'illustration de ce livre que l'on doit à Izou, qui est une jeune dessinatrice fort talentueuse. Mais il y a aussi l'enregistrement audio. Il n'y a pas de coïncidence parfaite entre le texte que l'on lit et le texte que vous nous dites. Pour quelle raison ? C'est une question de format ? C'est une question liée à l'art du conteur qui introduit de l'improvisation ou parce que ça donne la possibilité de deux types de récits ?
C'est lié au projet qui est assez particulier puisque à la demande du parc départemental du Saussé, avec Aurélie Sureau, nous avons été en studio d'enregistrement enregistrer les 17 histoires d'arbres. Ensuite, j'ai proposé au parc départemental du Saussé de faire de ce beau projet un livre. Et ils m'ont suivi, ils m'ont soutenu. Et après, j'étais donc à la rencontre d'illustratrices et d'illustrateurs. J'ai mis un an à trouver Héloïse Robin, dite Izou, qui a peint magnifiquement les arbres histoires et sur du contreplaqué avec un plaquage en bas de chaque tableau qui correspond à l'essence de chaque arbre dont on parle. Ce qui fait que nous disposons d'une exposition de tableaux associée à ce projet de livre Arbre Histoire. Et l'idée du livre, Didier Jeunesse a été séduit par ce livre et donc ils ont décidé de le publier avec nous.
Donc ça fait deux types de narration en fait.
Et donc il y a effectivement deux types de narration parce qu'il y avait cette contrainte de faire une illustration, un texte.
Est-ce que les enfants, puisque vous vous adressez en partie aux enfants, sont sensibles à ces histoires, à l'heure des jeux vidéo, parfois violents, des réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'ils sont sensibles et est-ce que c'est indispensable ou vous leur forcez un peu la main ?
Alors moi, en tant que conteur, effectivement, je développe cet art de la relation et j'aime développer cet art de la relation. Il y a vraiment différentes façons de le faire. Quand je suis dans la nature avec eux, il y a assez d'éléments de curiosité pour les captiver et pour voir les yeux qui brillent et les étoiles aussi. Et moi, j'ai différents outils. Il y a les devinettes, il y a la beauté qui est au-dessus de nous, qui est tout autour de nous. Il y a l'histoire qui nous raccroche. Et oui, je peux vous dire que les histoires marquent les esprits et créent cet attachement au territoire.
Et aux histoires, donc. Alors, à vous lire, on découvrira aussi pourquoi l'amour est aveugle, Laurent Azuelos. Mais je vais quand même laisser un peu de suspense, le temps de la puce, et en regardant Lucie Bouteloup dont le regard pétille.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Bonjour Pascal. Mais pourquoi diable l'amour rend-il aveugle ?
Vous croyez que je vais vous le dire ?
Vous êtes du genre à ne pas vendre la mèche.
Vous voyez venir. Oui, je vous vois venir.
Vendre la mèche, c'est bien notre expression du jour. Pour en parler, Bénédicte Gaillard répond à mes questions dans la puce à l'oreille. Mais avant, la parole à des enfants qui ne manquent pas de poupées.
Par exemple, imaginons c'est la guerre et on vend par exemple une bombe nucléaire, et c'est comme si on vendait la mèche d'un cataclysme, d'une catastrophe. Et la mèche, c'est le début.
La mèche de la bombe, la mèche pour allumer la bombe. On allume et après on part en courant, comme ça nous laisse un peu de temps pour pas qu'on s'explose.
En fait, vendre la mèche, ça veut dire une mèche de cheveux. Alors tu vends une perruque par exemple, et puis après tu dis je vais vendre la mèche de la perruque.
Pour moi, vendre la mèche, ça veut dire un peu chercher quelqu'un, parce que vendre la mèche comme une bombe et comme si vous allez vous attaquer, et c'est chercher quelqu'un, commencer à l'embrouiller.
T'es la puce
à l'oreille.
Alors, Bénédicte Gaillard, vendre la mèche, de quelle mèche s'agit-il dans cette expression ?
Alors oui, c'est la mèche de la bombe, la mèche de l'explosif, c'est pas la mèche de cheveux.
Qu'est-ce que ça veut dire, vendre la mèche ?
Alors, vendre la mèche, c'est révéler un secret.
Alors aujourd'hui, on va justement le révéler, le secret autour de cette expression, une expression qui ne date pas d'hier.
Non, alors l'expression vendre la mèche, elle-même date du 19e siècle. Mais cette expression vient d'une autre expression qui est éventer la mèche, qui, elle, date du XVIe siècle. Et c'est une expression qui est tirée du domaine militaire.
Des artificiers.
Des artificiers. Ils cherchaient les bombes ennemies. Et là, on inventait la mèche pour que la bombe n'explose pas, pour limiter les dégâts de la bombe. Et à ce moment-là, c'est devenu une expression figurée. On trouve une affaire, un secret, on le découvre, on le révèle pour éviter, au départ, un complot, et puis après, pour éviter qu'elle ne fasse des dégâts ou qu'elle ait des effets.
Au début, donc, c'était le complot militaire, voilà. Et puis après, c'est devenu la simple affaire.
Et on a remplacé le verbe « éventer » par le verbe « vendre ». Le verbe « vendre » pris dans son sens de trahir.
Hein. Comme c'est, quand on dit « c'est un vendu, vendu ».
Exactement. Donc, « vendre la mèche », c'est révéler un secret.
Donc l'expression dans son sens actuel date du 19e siècle.
Voilà.
Vendre
et
la mèche.
Dans son sens et dans son expression. De remplacer éventer par vendre.
Alors vendre la mèche, là encore, difficile de trouver des synonymes. Oui. Mettre en lumière,
oui.
Divulguer.
Mettre au parfum, avoir la langue un peu longue, trop longue.
On cafte,
oui.
On moucharde, on balance.
On rapporte.
On balance d'ailleurs, ouais. On dit de quelqu'un qui vend la mèche que c'est une balance.
Voilà. Ouais. Ce qui est amusant de noter, c'est qu'au Canada, une personne qui est incapable de garder un secret, donc qui vend la mèche, on l'appelle un panier percé.
Ah, l'image, elle est pas mal, hein, ouais. On comprend ouais. Tout de suite.
Oui.
En Allemagne, on laisse sortir le chat du sac. Quand en néerlandais, on parle plus loin que sa bouche. En polonais, on lâche la peinture. Et en Argentine, on débouche la marmite. Merci Bénédicte Gaillard d'être venue nous vendre la mèche, d'avoir débouché la marmite dans la puce à l'oreille. Et pour les auditeurs qui veulent en savoir plus et s'amuser avec les expressions françaises, eh bien ça tombe bien puisqu'ils peuvent se procurer votre dernier ouvrage. Passe-moi l'expression, 300 jeux sur vos expressions préférées, un ouvrage paru aux éditions de l'Opportun. Et ils peuvent aussi réécouter cette puce ainsi que toutes les autres en podcast sur le site de RFI. À très bientôt.
Merci.
Merci à toutes les deux. Laurent Azuelos, est-ce que vous pourriez raconter à Lucie Bouteloup pourquoi l'amour est aveugle, puisque vous le racontez dans ce livre Arbre-Histoire.
Ça se passe il y a très très très
longtemps. Ah oui, vous faites un conte, allez allons-y.
Dans une forêt vaste et profonde, en ce temps-là, il vivait un peuple. Ni homme, ni femme, c'était le peuple des sentiments. Ils s'ennuyaient terriblement. Alors ils ont décidé de jouer à cache-cache. La folie a compté. Et tous les sentiments se sont cachés. Lorsque la folie s'est mise à chercher les sentiments, elle les a découverts les uns après les autres, elle a même découvert la peur cachée dans le ventre du loup. Et à un moment, il manquait le sentiment que l'on cherche tous et qui rime avec toujours.
L'amour.
La vague de sentiments s'est mise à rouler, la folie en tête du cortège. Ça a cherché pendant des heures, des jours, des semaines, et à un moment, ils ont entendu une mélodie. La folie a dit, suivons la mélodie, elle nous mènera là-haut. La folie face à l'aubépine, écarte les branches et trouve au cœur de l'aubépine l'amour. Mais dans cette partie de cache-cache, au cœur de l'aubépine, l'amour, avec les épines du buisson, s'était crevé les yeux. C'est depuis ce jour que l'on dit que l'amour est aveugle. L'histoire n'est pas finie. La folie accueillit précieusement l'amour au cœur de l'aubépine et main dans la main, l'a guidée sur les chemins. C'est depuis ce jour que l'on dit aussi de bien prendre soin de sa folie, car sinon sans elle, notre amour serait perdu.
Merci Laurent Azuelos. Arbre Histoire est édité chez Didier Jeunesse et c'est un livre de contes à écouter et à lire. De vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. À demain.